savoir, Louise Touret.
Aujourd'hui, nous parlons de la manière dont la question raciale circule dans l'éducation. Et s'il n'y a pas de race à l'intérieur du genre humain, les couleurs de nos peaux, plus ou moins visibles ou invisibles suivant les contextes, nous rendent nous-mêmes plus ou moins visibles ou invisibles selon les regards. Traditionnellement, l'école se pense comme indifférente à la question de la couleur de peau. On dit « colorblind » en anglais. Indifférente aussi à la question des origines. L'institution scolaire, donc, dans laquelle on ne se singulariserait pas les élèves et où pourtant on peut retrouver, suivant les établissements, mais aussi les filières d'orientation, des enfants dont on voit bien qu'ils sont, par exemple, presque tous noirs, presque tous d'origine immigrée, plus ou moins lointaine, ou plus ou moins visible, ou tous blancs, pour ce que cela peut vouloir dire. Mais ce sont les termes utilisés par les élèves eux-mêmes, car ils en parlent bien entre eux, les enfants, les adolescents, et ils revendiquent origine et couleur même. Dès lors, faut-il aborder ces sujets dans un cadre éducatif et surtout, comment ? Alors c'est parce qu'elles offrent une réflexion à la fois décalée et totalement pertinente sur la question, lumineuse même cette réflexion, que nous avons voulu parler de deux expositions, une qui est passée mais je crois qu'on doit encore en parler, elle s'appelle Black Dolls, et une exposition qui se déroule actuellement au musée d'Orsay, le modèle noir, avec un travail qui est proposé à l'intérieur de ce musée, un travail exposé, un travail d'élèves, voilà qui nous offre la possibilité aussi de réfléchir à ce que peut représenter aujourd'hui l'enseignement artistique pour se saisir des questions sociales. Une émission préparée avec Avril Ventura, réalisée par Philippe Baudouin. C'est avec lui que je concocte les reportages que vous entendez dans Être et Savoir. Alexandre Dang est à la prise de son ce soir. Et notre leçon de choses avec la célèbre critique littéraire et ancienne directrice du Monde des Livres et autrice Josiane Savigno, qui racontera comment c'est elle qui a fait lire ses parents. La leçon de choses, c'est en fin d'émission et c'est signé Sophie Bobert. Et je vais saluer tout de suite mes invités, trois femmes puissantes. Bonjour Rosa Djaoud.
Bonjour.
Vous êtes responsable des projets éducatifs et culturels au musée d'Orsay. Bonjour Nora Philippe.
Bonjour.
Vous êtes réalisatrice notamment du film Like Dolls, I'll Rise, les films de l'air. C'était en 2018 car vous avez été la commissaire de l'exposition Black Dolls et c'était à la Maison Rouge et vous enseignez la réalisation à l'école des arts déco à Paris. On va revenir sur cette exposition plus précisément et aussi sur un travail qui a été réalisé avec des élèves et une autre enseignante, Chloé Corman, et puis une photographe. Un travail tout à fait magnifique, des textes écrits sur les élèves, par les élèves, sur cette exposition. Anne Lafont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, historienne de l'art. Vous êtes autrice notamment d'une Africaine au Louvre en 1800, La place du modèle, édition de l'Institut national d'histoire de l'art, c'était en février dernier. Et puis L'art et la race, l'Africain tout, entre parenthèses, contre l'œil des Lumières aux presses Turel. Et puis, vous avez participé au comité scientifique de l'exposition Le modèle noir de Géricault à Matisse. Je vous propose qu'on entende déjà la directrice du musée d'Orsay, Laurence Descartes, nous parler de cette exposition et de sa réception par le public.
Je pense qu'on envoie un signal avec cette exposition et que voilà, on est très heureux de voir dans les salles du musée en ce moment sans doute un public qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas vu auparavant à Orsay. Et maintenant, il faut construire aussi dans cette relation et dans ce partage des collections et du patrimoine. C'est essentiel. Un musée national, il appartient à tout le monde. Les collections de la nation, elles appartiennent à tous. Et quelle que soit votre origine, quel que soit votre background culturel, votre background social, vous avez accès à ce monde. Et c'est à nous de vous donner les clés, l'envie, selon votre profil, votre âge, vos désirs. Et ça, c'est très important. C'est vraiment la mission d'un musée. Nous sommes des passeurs, en fait. Des passeurs de patrimoine, de culture. Donc, c'est à nous d'être inventifs, de proposer des projets aussi qui permettent de partager. Et là, je pense qu'on est, dans une aventure très, très stimulante qui nous encourage beaucoup pour la suite. On a eu une très grosse demande pour les visites scolaires. Je crois que, je ne sais pas si tous les créneaux sont pris, mais c'est à peu près de cet ordre-là. Le partage de ce patrimoine, pour nous, il est absolument essentiel. C'est aussi ça qui amène de la cohésion dans la société. Alors, un musée ne peut pas faire grand-chose dans le monde d'aujourd'hui, mais il peut et il doit partager ce patrimoine et donner les clés d'entrée à ce patrimoine. Après, vous en faites ce que vous voulez. Vous en faites des selfies, des œuvres d'art, des souvenirs, tout ce que vous voulez, des histoires à raconter à vos copains et dans votre famille. Mais peu importe, que chacun s'approprie ce patrimoine.
Un patrimoine à s'approprier est aussi un sujet d'exposition, le modèle noir, qui envoie un signal, Rosa Djaoud. Qu'est-ce qu'on entend par signal ?
Un signal, je crois que l'idée a été très bien portée hein, par les propos qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que toutes les expositions et les collections d'une manière générale du musée d'Orsay sont intéressantes pour un jeune public et on invite les jeunes à venir à longueur d'année évidemment, mais s'il y a un sujet qui peut présenter un intérêt pour eux, par rapport à leur quotidien, par rapport à ce qu'ils vivent, vous en parliez dans les écoles, mais en dehors de l'école, par rapport à ce qu'ils sont, pour la relation qu'ils ont à leur famille et au reste du monde, c'était bien ce sujet-là. En tout cas, c'est une question qu'on s'est posée, la question du rapport au jeune public en général, aux classes en particulier, dès que ce projet d'exposition a été connu et que nous avons commencé à travailler dessus.
Le modèle noir a donc rencontré un grand succès public en général, mais aussi un succès avec le public scolaire, ce dont vous vous occupez, Rosa Djaoud. Ce succès, il a été préparé parce que quand on monte une expo comme ça, on pense tout de suite à sa réception dans le monde de l'éducation nationale avec ses visites qui vont être proposées à des classes.
Oui, absolument. Alors, c'est une exposition qui rencontre un grand succès, oui. Vous avez raison de le dire, puisque il y a, je crois, une moyenne de 5000 visiteurs par jour. Il y a eu 200 000 visiteurs depuis que l'exposition est ouverte au public, donc depuis mi-mars. Et pour vous donner une idée, samedi dernier, il y avait la nuit des musées. Le musée d'Orsay a accueilli plus de 8000 visiteurs et la moitié de ces visiteurs est allée visiter l'exposition Modèle Noir. On a eu 4000 visiteurs dans l'exposition en l'espace de 4 heures, entre 18h et minuit. Ce sont des visiteurs qui sont particulièrement jeunes, ça on peut l'observer à longueur de journée, mais on a pu l'observer particulièrement lors de la nuit des musées. Et ce sont des visiteurs qui, effectivement, n'avaient peut-être pas l'habitude de venir au musée d'Orsay, donc d'une plus grande diversité, si je peux employer ce terme, qui parfois discutaient. Mais à l'évidence, oui, ce sont de nouveaux visiteurs et ça nous réjouit. Alors, on l'a préparé pour répondre complètement à votre question. Il y a plus d'un an, à vrai dire, nous avions organisé au musée une grande rencontre pour les inspecteurs d'académie, toutes disciplines confondues, au cours de laquelle on leur a présenté la saison, la prochaine saison éducative. Et c'est l'un des commissaires, Stéphane Guégan, qui est venu parler de son exposition, qui est encore en préparation, à vrai dire. Hein. Il en a même parlé au monde de l'éducation en avant-première. Et au terme de cette rencontre, deux inspecteurs d'art plastique sont allés vers lui et ont exprimé leur très grand intérêt pour le sujet et leur envie de voir se développer en partenariat les projets que nous avons réussi à mettre en place. Voilà comment ça a commencé.
Et on va revenir sur l'exposition de travaux d'élèves, travaux choisis et assez magnifiques. Mais on se garde ça pour plus tard parce que je voulais continuer à réfléchir à la genèse de cette exposition avec vous, Anne Lafont, puisque vous avez fait partie du comité scientifique. Déjà sur la manière dont la question de l'identité et de l'identité visible, si on parle de couleur de peau, traverse aujourd'hui la société, mais aussi le monde des arts, où on s'attend à ce que cette question soit présente, soit représentée, et avec un public peut-être avide de rencontrer des œuvres qui parlent de ce sujet, si vous voulez aussi le définir à votre manière.
D'ailleurs. Oui, c'est vrai que, alors, pour le coup, moi, depuis quelques années, j'ai renoncé à employer le terme d'identité, qui est piégé, on ne sait plus de quoi on parle et puis
vous entendiez combien je faisais attention oui, au terme que j'ai employé et je vous ai d'ailleurs invité ouais, à me reprendre.
Et je saisis ça au vol. Donc du coup, j'essaye un petit peu de parler différemment des choses. Je pense que la question de la couleur de la peau, la question de la race, la question de même de la religion ou d'autres choses qui font effectivement des identités complexes, disons, et des expériences de vie aussi par lesquelles on entre dans la vie sociale avec un certain nombre de marqueurs anatomiques. Ou ou tout simplement vestimentaire ou autre. Évidemment, je ne nie pas tout ça. C'est-à-dire que c'est pas finalement en faisant un petit peu un coup de pied à l'idée d'identité que je ne sais pas que ça existe aussi. Juste, j'essaye de complexifier un petit peu cette notion-là. Et je crois que cette exposition, effectivement, telle qu'elle a été d'ailleurs résumée et portée là par Laurence Descartes dans l'extrait que vous nous avez fait écouter, a été prise par le haut. C'est-à-dire que c'est à la fois de dire les choses très frontalement, effectivement, c'est s'intéresser à l'histoire de France telle qu'elle est traversée par l'histoire des Noirs, en fait, hein, tout simplement, et comment l'art est un lieu de rencontre de tout cela. Et je crois que ce qui est tout à fait intéressant avec l'exposition, c'est qu'on voit bien à quel point, puisque une forme d'identification peut passer par la couleur de la peau, choisir finalement de poser cette question sur le long terme, le 19e, le 20e siècle, à travers les arts picturaux, parce que globalement, c'est beaucoup la peinture quand même, hein, dans cette exposition, aussi les arts graphiques, la sculpture, etc., mais la question de la couleur et de la peinture est très importante, c'est tout à fait pertinent. C'est-à-dire que c'est même le lieu depuis lequel l'art rencontre précisément la question de l'histoire des Noirs et en tout cas de l'histoire de la race. Donc de ce point de vue-là, il y a, je veux dire, une audace et une évidence dans le cadre de ce projet d'exposition.
Vous qui êtes historienne de l'art, Anne Lafont, est-ce que de la même manière qu'on peut envisager de raconter l'histoire de France de plusieurs façons, et on peut raconter une histoire mondiale de la France, absolument, à la manière de Patrick Boucheron, on peut raconter l'histoire de l'art et l'histoire de l'art en France d'une autre manière, et c'est peut-être ça le sujet de l'exposition, en tout cas tel que moi je le comprends, et de raconter ça, et c'est important au jeune public.
Moi, je suis entièrement d'accord avec vous. Je crois que c'est une histoire de l'art qu'on a exposée là au musée d'Orsay, tout simplement. On pourrait s'arrêter là. On prend encore quelques, je dirais, moyens d'expliquer un peu plus largement. Mais enfin, on retrouve tous les grands artistes qui ont fait même l'histoire de l'art français, on peut dire, hein, que ça soit Manet, Bazille, Géricault, Chassériau, etc. Et en même temps, on montre à quel point ils ont eu une perméabilité à l'histoire mondiale, précisément. D'abord parce qu'ils ont des destins de vie. On voit précisément Manet voyager au Brésil à 18 ans. On voit l'origine haïtienne de Chassériau. On voit que leur vie est beaucoup plus, comment dire, plus large qu'on aurait pu le penser et qu'il n'est pas nécessaire de réduire à l'esprit du lieu, je dirais, la production artistique pour en faire un chef-d'œuvre. C'est-à-dire un chef-d'œuvre se nourrit aussi de toutes ces, finalement, de tous ces croisements, de toutes ces rencontres et tous ces Noirs, finalement, qui arrivent dans les studios, justement, des artistes du 19e siècle, montre à quel point il participe aussi de cette grande histoire de l'art français du 19e.
Et puis cet acrobate, Lala, peinte par Degas, qui n'a pas donc représenté que des gracieuses danseuses, mais aussi de gracieuses acrobates, en l'occurrence, Lala, une artiste de cirque noire. J'avais dit que je tenais à parler de cette expo, Black Dolls, même si elle est terminée, elle a donné lieu aussi à beaucoup de travail scolaire. Alors on va revenir après sur ce travail particulier d'élèves de Bobigny. Mais là aussi, un grand succès auprès du jeune public, Nora Philippe.
Alors l'exposition Black Dolls s'est effectivement achevée il y a exactement un an d'ailleurs, en fait quasiment jour pour jour, mais cette exposition a effectivement attiré un public, en fait c'était un record de fréquentation tout simplement, 14 ans d'existence de la Maison Rouge.
On doit rappeler ce qui était exposé peut-être, pardonnez-moi, mais faites-le puisque
c'est 50 000 personnes qui sont venues l'année dernière voir les Black Dolls, venez voir donc une exposition qui était, qui montrer des poupées noires en tissu artisanal venues des États-Unis d'Amérique et très certainement fabriquées par des femmes africaines américaines restées anonymes entre à peu près 1840 et 1940. L'exposition était par ailleurs accompagnée d'un volet photographique qui montrait des portraits d'enfants ou de mamans, de femmes et de familles en présence de poupées noires ou blanches. Et cette collection privée est une collection absolument fabuleuse, unique en son genre. C'était par ailleurs c'est un sujet qui a été assez exploré aux États-Unis et qui est encore peu explorée du côté justement de la couleur de la peau en France ou en Europe. On a beaucoup parlé de la question du genre ou de la représentation de canons féminins stéréotypés à travers la poupée, et notamment les poupées industrielles, la Barbie, etc. Ce sont des problématiques qui sont très, qui sont très explorées par les sciences sociales et humaines, et aussi qui font partie de l'imaginaire collectif, hein, la problématique de la Barbie, etc. Mais la problématique de la couleur de peau des poupées et des poupées mainstream, eh bien, on y pense un petit peu moins, donc dans notre France colorblind.
Alors, est-ce que c'est parce que ça répond à une question et à une forme, peut-être pas d'invisibilité, puisque la couleur, les jeunes en parlent tout le temps, mais à une forme d'absence de discours, et peut-être de discours sur l'art, et aussi de discours qui prennent un peu plus les choses, moins du côté du concret, mais pour se raccrocher à une histoire qui pourtant n'est pas la nôtre, hein, puisque c'est une histoire américaine, que cette exposition a rencontré un si vif succès, Nora Philippe.
Ce que j'ai entendu des jeunes, enfin des enfants et des adolescents qui étaient dans l'exposition, c'était d'abord une conscience extrêmement fine en fait et imaginative des questions de couleur de peau et d'appartenance. Moi, j'aime bien le mot appartenance, par exemple, notamment chez des enfants aussi qui s'identifiaient comme métis, avec un vrai travail autour de donc une culture visuelle évidemment, mais aussi un travail autour du langage. J'entendais donc ces enfants, ces adolescents de 13, 14, 15 ans qui travaillaient autour de mots comme afro-antillé, afro-péen, afro-français, etc. Et qui voyait dans ces poupées américaines, donc non, en fait, c'est notre histoire, c'est une histoire que l'on retrouve dans les Outre-mer aussi, c'est ces poupées hybrides culturellement, qui explorent des créolisations de style, donc évidemment la couleur de peau, mais aussi vestimentaire. Ces enfants et ces adolescents trouvaient dans ces objets notamment un exemple très très fort d'une, ce que je pourrais appeler une expression minoritaire. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui appartiennent à des minorités et qui s'expriment dans une fierté, en fait. Voilà, dans un contexte où leurs droits les plus basiques sont niés et leur droit à se représenter ou à être représenté, ne serait-ce que de manière digne, ce droit-là est bafoué au quotidien, illégalement, etc. Et donc, cette expression de soi en tant que minoritaire, ça peut être une femme noire, ça peut être aussi tout simplement être un enfant, on n'entend pas la voix des enfants, les enfants ne font pas archives, eh bien, cela les invitait à eux-mêmes, elles-mêmes, prendre la plume, faire des photographies, des selfies, comme disait Laurence Descartes, ou produire, elles et eux-mêmes, des images, entre guillemets, de soi. Et donc, l'ouvrage dont on parle aussi, c'est Dans la peau d'une poupée noire, donc qui a été fait avec Chloé Corman, qui est leur enseignante de français, qui parle de la romancière, qui vient de publier le roman Midi au Seuil il y a quelques mois.
Que j'ai lu et qui est formidable.
Qui est un très beau roman autour de l'enfance précisément et du déni et de l'aveuglement sur certains pans de l'enfance par les adultes. Eh bien, avec Chloé Corman et une vingtaine d'adolescents donc du collège Jean-Pierre Timbaud à Bobigny, eh bien, il s'agissait précisément de travailler autour de la représentation de soi, de se réapproprier son propre récit.
Et c'est pour entendre aussi ces adolescents que je me suis rendue jeudi à la sortie du collège à Jean-Pierre Timbaud à Bobigny. Donc, j'ai pris mon agrès et je suis allée chercher Raya et Daniela pour qu'ils me parlent de ce travail qu'ils avaient pu effectuer. On a marché un petit peu dans Bobigny. Nous sommes allés dans une cité privée, ils avaient le code. Comme ça, on n'entend pas trop de bruit autour de nous. Et je vous propose maintenant bien d'écouter. Donc c'est Daniela et Ryan du collège Jean-Pierre Timbaud.
On était tous fiers de nous. Ça nous a quand même liés, quoi. On a fait un livre ensemble. C'est pas quelque chose d'anodin. On ne sait pas trop d'où viennent ces poupées. On sait qu'elles ont été créées par des esclaves pour des enfants ou pour leurs enfants.
Donc au début, on avait une série d'images de poupées et il fallait choisir notre préférée et raconter une histoire là-dessus. Donc j'ai pris une poupée qui me semblait bien et donc j'ai fait une histoire dessus qui racontait un enfant qui voulait un bonhomme en pain d'épices. Alors moi, je suis un garçon blanc.
Je suis une jeune fille noire. Ça m'a provoqué des émotions parce que je me suis dit que j'aurais pu moi-même tisser une poupée ou être esclave. Du coup, je me suis reconnue. Enfin, ça fait toujours quelque chose vu que c'est une histoire triste et marquante.
Est-ce qu'on peut s'identifier à une jeune fille noire ou une poupée noire quand on est un jeune garçon blanc ?
Moi, je pense que oui, parce qu'il y a une histoire touchante qui nous touche sur nous. Et voilà.
Est-ce que la couleur de peau, c'est un sujet dont on peut parler à l'école ? Est-ce que vous en parlez déjà entre vous, entre élèves ?
On en parle entre nous sans aucune difficulté, mais on sent parfois que c'est tabou, qu'il y a des malaises. Mais plus le temps passe, et plus c'est accepté, et plus les profs, ils nous font travailler dessus pour nous faire prendre conscience.
Déjà, au collège, il y a beaucoup de noirs et beaucoup de blancs, donc c'est assez mélangé. Et avec les profs, ils acceptent ça. Moi, je trouve, l'année dernière, en histoire géo, on avait étudié l'esclavagisme, et le professeur n'avait aucun mal à parler de ça.
En tant qu'adolescente noire en France, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui te rend plus visible ou moins visible? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que déjà tu as commencé à y réfléchir?
Déjà, je pense que ça fait ma force. Ça me donne envie de me battre deux fois plus. Ce qui est compliqué, c'est parfois les remarques, le racisme, mais c'est pas grave, on passe au-dessus. Et on apprend à être fort avec le temps. Je dirais que ce qui m'aide, c'est plus les youtubeuses noires, les artistes noirs qui se battent pour nous, qui nous donnent de la force en fait. En fait, s'il y a des youtubeuses métisses et à la fois noires, comme par exemple L4, Yanissa Ksoso, il y a aussi des acteurs et des actrices noires, comme par exemple Omar Sy.
Aya Nakamura, t'aimes bien?
Non, je suis pas fan.
Et nous passons quand même un petit extrait d'une intro d'une chanson d'Aya Nakamura, parce que c'est une artiste noire qui rencontre un très grand succès aujourd'hui dans la chanson Anne Lafont. Je vous voyais réagir en écoutant Daniela, donc élève de 3e de Jean-Pierre Timbaud, et Ryan, élève de la même classe.
Oui, je trouve ça très émouvant de les entendre et puis aussi d'être capable de partager donc cette expérience par rapport à l'exposition de Nora. Et puis ce que je retenais aussi des questions que vous leur avez posée sur la question de visibilité et invisibilité. Et je trouve que c'est intéressant parce que j'imagine Daniela en train de vous écouter. C'est des choses qui m'ont aussi interrogée forcément. Et en fait, plus ça va, plus je crois que c'est une question d'outre-visibilité. C'est-à-dire qu'on n'est jamais au bon endroit, au bon moment, en quelque sorte. Et il y a quelque chose, je crois, à la fois, je pense, les jeunes gens noirs comme Daniela sont très visibles dans la société. Et il y a des processus d'invisibilisation qui sont sociaux, finalement, pour essayer de ne pas, finalement, peut-être donner toute la chance à chacune et à chacun. Donc, cette idée d'outre-visibilité, ça veut dire que c'est un excès de visibilité qui crée une forme d'aveuglement. C'est quelque chose que j'ai essayé aussi de travailler d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, où il n'y a pas une correspondance entre quelque chose qui serait suffisamment neutre pour créer un avenir qu'on peut décider soi-même. C'est-à-dire qu'on serait, bien évidemment ça n'est pas le cas, mais on serait, lorsqu'on est une jeune femme ou un jeune homme noir, conditionné à quelque chose dont on aurait moins la maîtrise que lorsqu'on est blanc, comme si le blanc était moins une couleur que le noir. Et je trouve que finalement, il faut sortir de cette question d'invisibilité ou de visibilité, mais plutôt penser du côté de l'outre-visibilité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas raccord à une forme de neutralité qui donne un avenir possible pour chacun et chacune.
De ce faux universel blanc, et pourtant, cette question de l'outre-visibilité, si on peut la penser soi-même, et là, je sais exactement de quoi je parle, les autres vous renvoient bien à une question de visibilité ou une injonction à ne pas tenir compte de ce qui pourtant semble visible. Cette question, elle traverse aussi l'art, Anne Lafont.
Oui, elle traverse tout à fait l'art et précisément, je dirais que l'art, là aussi, dans des formes qui sont soit caricaturales, soit d'isolement, donc d'accentuation, montre encore plus finalement, donne à voir en quelque sorte. Hein. L'art donne à voir encore davantage des choses que l'on vit quotidiennement sans avoir sans en prendre le temps toujours de les comprendre ou de les rendre conscientes. Et puis, peut-être que l'art peut quand même apporter quelque chose. Enfin, je crois que je l'ai découvert un petit peu plus dans cette exposition, en tout cas dans la relation qui se noue entre l'exposition...
Vous parlez, en regardant Rosa Djaou, de l'exposition Le modèle noir.
Voilà.
Et celle des élèves?
Et celle des élèves.
Donc, c'est-à-dire
D'Achille Azineb et celle de Jéricho Amatis, je dirais les deux, leur articulation à toutes les deux, m'a montré que finalement, les moyens de représentation de la peau sont tellement multiples et divers dans ces deux expositions qu'elles donnent aussi, par le faire, une expérience aux élèves qui peut être celle du fait que la peau noire, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de couleurs, et donc ça réouvre aussi des possibles, je dirais, dans la vie. C'est pas, il n'y a pas une manière de représenter justement la peau noire. Et je pense, alors là, encore en écho à Daniela tout à l'heure, avec les youtubeuses, je pense à cette youtubeuse noire et russe, qui est donc l'un des, je pense, l'une des œuvres phares de l'exposition Le modèle noir d'Achille Azineb, où c'est une jeune femme qui a fait ce portrait de cette youtubeuse noire et russe par la broderie. Donc c'est vraiment là une intervention artistique tout à fait intéressante. La manière dont elle fait le modeler la couleur noire de la peau, le fait même de choisir la broderie en tant que femme pour représenter une autre femme noire, enfin c'est tout à fait intéressant. Donc cette pluralité de médias est aussi une manière d'intervenir sur une pluralité de possibles, de vivre, d'expérimenter le fait d'être noir dans la société, notamment française.
Donc en parallèle du modèle noir de Géricault à Matisse, le modèle noir d'Achille Azineb, vous avez commencé, Rosa Djaoud, à nous dire pourquoi cette exposition avait été proposée. C'est à l'initiative d'inspecteur de l'éducation nationale. Elle est très très bien fléchée dans le musée. Quand on arrive pour aller voir l'exposition que j'ose appeler principale, qui est au rez-de-chaussée, on est tout de suite, le regard se porte tout de suite sur le panneau qui indique l'exposition des élèves. Alors déjà sur la qualité des travaux proposés, qui, je dois dire, m'a tout à fait soufflé. Vraiment étonnée dans le bon sens du terme. Est-ce que vous aussi, ça vous a étonné, Rosa Djaoud?
Oui, absolument. Cette qualité, on la doit avant tout aux professeurs qui ont accompagné ces élèves pendant plusieurs mois dans ce travail de production, aux élèves même, bien sûr. Il faut savoir que la plupart de ces élèves sont dans des classes où les arts plastiques ne sont pas une spécialité. C'est un enseignement optionnel, donc ils ont 50 minutes de cours par semaine environ. Il y avait deux classes qui étaient dans un enseignement de spécialité. Donc la qualité est vraiment due au travail d'abord de réflexion qu'ils ont fait pendant plusieurs mois sur cette exposition, parce que ce que je voudrais dire, qui n'est peut-être pas expliqué d'ailleurs en introduction de cet accrochage qui est présenté au public au quatrième étage du musée, c'est que ce travail a été réalisé par ces 300 élèves des deux académies de Paris et de Créteil en amont de l'exposition. Parce que notre objectif, dans un souci de valorisation et comme un défi pour les élèves, était qu'elle soit présentée au public en même temps que l'exposition de référence, celle qui est au rez-de-chaussée de Géricault à Matisse. Et pour ça, donc, il fallait que les élèves travaillent entre le mois de septembre et le mois de mars à partir d'un corpus d'œuvres, sélection de quelques œuvres de l'exposition, et à partir d'un certain nombre de questionnements que nous avions définis avec ces deux inspecteurs d'art plastique, dont je voudrais donner les noms, Sylvie Lay, qui est inspectrice d'art plastique sur Paris, et Brice Sicard, qui est l'inspecteur d'art plastique de l'Académie de Créteil. Et ces questions, c'était: qui sont nos modèles communs aujourd'hui? Peut-on connaître l'autre et se reconnaître en lui, surtout si il ou elle est différent de nous? Et je crois que les élèves que nous venons d'entendre y ont largement répondu aussi à cette question. Et puis, comment rendre visibles ceux et celles qu'on ne voit pas? Et ces professeurs d'art plastique, après de longues séances de discussions, ont accompagné les élèves vers des réalisations très très variés, de très grande qualité en effet. Alors après, bon, il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres, hein, c'est une évidence, mais il y a eu vraiment un travail très très approfondi de leur part. Je pense par exemple au portrait de Nelson Mandela, qui est aussi une des pièces assez marquantes de cet accrochage, parce que c'est une jeune fille qui est en quatrième et qui a, un amour absolu pour la figure de Nelson Mandela. Et quand on lui a proposé de participer à ce projet, à l'évidence pour elle, elle allait faire un portrait de Nelson Mandela, qu'elle a représenté un peu comme un vitrail, hein, sous la forme d'un vitrail. D'ailleurs, elle a intitulé son œuvre « Oh my God », OMG, parce qu'il est un dieu pour elle. Ce travail-là, elle a dû le reprendre à plusieurs fois pour arriver à la qualité que vous voyez. Donc oui, ça nous a vraiment beaucoup, beaucoup impressionnés.
C'est aussi une manière pour les élèves en art plastique, donc dans le cours d'art plastique, de se saisir de la dimension politique de l'art plastique qui n'est pas toujours présente. Alors, on a entendu Laurence Descartes en début d'émission. J'étais présente au vernissage, à l'accrochage des travaux des élèves. Donc, c'est à ce moment-là, c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de bruit derrière nous. Moi, je me souviens en particulier d'une œuvre représentant un modèle, donc le modèle de Jéricho, mais avec le fez du personnage Banania et puis la même écriture, seulement il y a écrit « J'accuse ». Et ce travail d'une élève qui s'appelle Anna, il est incroyablement politique. Est-ce que, aussi, dire aujourd'hui que l'art, c'est une question politique aux élèves, c'est une manière aussi d'enseigner à la fois l'art et puis à la fois l'histoire de l'art, Rosa Djaoud?
Bien sûr, c'est une œuvre extrêmement forte, celle dont vous parlez. Une de celles qui nous a vraiment le plus saisis lorsqu'on l'a découverte. Mais je crois que les élèves sont parfaitement conscients que l'art est politique. Ils nous l'ont dit, hein, parce que nous sommes allés dans les classes au moment où ce travail se faisait. On a observé un petit peu tous ces ateliers vivre, les échanges qu'il y avait entre les élèves. Et ils sont parfaitement conscients que l'art est politique et ils savent que seuls les artistes font réellement bouger le monde. Voilà. Et je crois que c'est aussi ce qu'ils expriment dans ces productions qu'on a exposées, de manière plus ou moins forte, mais c'est une conscience qu'ils ont vraiment, quel que soit leur âge.
Est-ce que pour l'histoire de l'art, on sait bien que l'art est politique, mais est-ce que cette dimension la question raciale telle qu'elle se pose, et telle qu'elle se pose à travers le monde, ce qui impliquerait une histoire de l'art plus globale, Anne Lafont, comment elle est posée et comment elle est aujourd'hui, comment elle pourrait faire l'objet de recherches là où on étudie l'art contemporain? Oui, l'art contemporain aussi, mais l'histoire de l'art et son évolution.
Alors, moi je suis une grande partisane des questions politiques dans le domaine de l'art, je veux dire, et puis d'une manière générale, c'est vrai que là, le dernier livre que j'ai fait est sur la question de la race, et aussi la race à sa racine, si on peut dire, c'est-à-dire au moment où est élaboré ce système de représentation du monde, et j'ai voulu montrer surtout à quel point ça traverse justement la question de la visibilité, donc des cultures visuelles et artistiques, qui sont les témoins premiers, finalement, de cette question de l'expérience de l'autre par la vue. Je dirais qu'en France, oui, il faut quand même le dire, j'aime pas trop entrer dans des généralités, mais il est encore difficile pour les périodes anciennes de faire entendre au sein de l'université la question du raccordement, finalement, de la production artistique, de la création, aux questions politiques. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu nié quand même dans les enseignements, et pourtant les jeunes gens ont un appétit très grand pour ces questions-là. Vraiment, je dirais, pour les études de genre, moi j'ai un séminaire à l'EHESS depuis plusieurs années sur ces questions-là, la salle est tout le temps comble, et viennent des gens qui travaillent en sociologie, en anthropologie, en histoire de l'art. Enfin, il y a vraiment un désir de se saisir de la création, de se saisir aussi de la société, finalement, sous cet angle-là. Pour ce qui concerne l'art contemporain, je dirais que c'est quelque chose qui est plus présent parce que les artistes eux-mêmes exigent ça de l'interprétation de leurs œuvres et qu'ils ne laissent pas entre les mains, je dirais, de n'importe qui, le fait de réduire à la question formelle, esthétique, seulement du goût, la production artistique. Pour les périodes anciennes, il y a encore du travail, mais il y a plein de modèles un peu partout dans le monde pour pouvoir créer cette émulation qui se saisira, je pense, de l'art.
Dans quel pays c'est le plus étudié, on
imagine. J'ai pas envie de le dire, mais les États-Unis. Dans le monde anglo-saxon, peut-être davantage, mais pas seulement. Le monde aussi latino-américain, dans le domaine de l'histoire de l'art, est très inventif, donc pas seulement.
Par rapport à ce que dit Anne, c'est aussi un des mérites de l'exposition de référence donc, de Jéricho à Matisse, de montrer qu'il y a eu un engagement des artistes contre l'esclavage très tôt, au XIXe siècle. Hein, parce qu'on parlait de l'art contemporain, mais c'est aussi un des intérêts, en tout cas pour des jeunes, de cette exposition, c'est de découvrir qu'il y a eu au XIXe siècle de grands artistes, Jéricho, Delacroix, Chassériau, etc., qui se sont engagés contre l'esclavage et pour son abolition.
Un engagement politique. Alors, vous parliez des études de genre, Anne Lafont, et puis des conférences qu'on peut faire sur la question. Parfois, quand on parle de féminisme ou de problèmes qui concernent davantage les femmes, évidemment, ou même les petits-enfants, il n'y a plus beaucoup d'hommes. Est-ce que quand on aborde les questions raciales, alors ce mot hein, vaut pour ce qu'il vaut, mais on l'utilise par facilité et commodité? On l'utilisera par commodité. Est-ce qu'on risque pas d'intéresser finalement un public relativement restreint ? Ou est-ce que cela peut concerner tout le monde ? Nora Philippe.
Je reviens
de,
un
de
instant.
Là où vous êtes, hein, oui, vraiment, bien sûr, de l'exposition et puis des travaux que
oui,
vous avez.
Je reviens un diriger. Instant sur l'expérience que nous avons eue en classe avec les élèves lorsque nous avons travaillé sur les poupées et sur les histoires qu'elles pouvaient charrier et sur les fictions que elles faisaient naître dans l'esprit et le cœur de ces filles et de ces garçons. Quasiment tous dans la classe ont exprimé le souhait d'en savoir plus sur le fait colonial et sur l'histoire de l'esclavage, sur l'histoire de la Caraïbe française, et ont confessé leur ignorance, sinon par récits parfois familiaux, de ces questions-là. Avec donc une vraie envie d'en savoir plus, mais via l'institution scolaire. Et donc pour préparer le livre, parce que c'est devenu un livre, je m'en suis référée aussi au... Enfin, j'ai essayé de comprendre ce que l'institution scolaire française disait et ne disait pas. Donc il y a ce livre dans la classe de l'homme blanc de Laurence Decoq qui revient en fait sur le rôle de l'école et sur
enseignante et historienne,
voilà, et combien c'est devenu pas une sorte c'est devenu très très politisé, très compliqué, alors que c'est il y a une soif, je veux dire, et les enseignants ont effectivement ce rôle là et qu'on peut et on doit enseigner les grandes étapes et de la colonisation et de la décolonisation à l'école française. Et donc ces ateliers et ce projet sont venus aussi révéler cette soif qui effectivement semble être assouvie via les visites au musée, via les ateliers artistiques, via le cinéma aussi, par les programmes de diffusion de cinéma à l'école. Mais surtout, moi, ce qui me soucie, c'est au-delà de la question de l'apprentissage ou du savoir, c'est la question de l'expression de soi. C'est-à-dire que des espaces s'ouvrent dans l'école ou à travers l'école de parler, de créer. Et c'est vrai que les œuvres qui sont, enfin les productions qui sont montrées au musée d'Orsay disent un talent parfois. Un vrai talent plastique et effectivement une conscience que l'on peine parfois à trouver dans les institutions, ne serait-ce que Daniela, je veux dire, à 13 ans, écrivait des textes sur le blackface qui devraient être très largement diffusés, on a publié. Voilà. Donc, en même temps, le musée n'est pas là à un rôle démocratique, etc., extrêmement important. Il n'est pas non plus là pour venir réparer, colmater le récit, le grand récit fantasmé de la cohésion nationale. Il peut faire beaucoup, mais il ne peut pas tout faire. Et donc, c'est vraiment, je pense, dans un dialogue, visiblement, c'est un exemple très vertueux ce qui s'est passé, entre l'institution scolaire et le musée. Mais je pense que tout reste à inventer. Je sais qu'au musée du Quai Branly, il y a une autre formule, c'est les ateliers nomades, c'est-à-dire de prendre les objets, les œuvres d'art, de les déplacer en partenariat avec des villes, et les choix des œuvres se font avec les habitants et habitantes des lieux. Donc ça a été fait à Clichy, là c'est à Argenteuil. Mais voilà, il y a des formules vraiment qu'il faut vraiment inventer. Je pense que c'est extrêmement important.
Le Louvre aussi, dans le cadre d'une politique de la ville, se déplace et déplace, bon, non pas des œuvres, mais des copies d'œuvres dans des centres commerciaux, mais y compris chez des particuliers. Et ce sont ces particuliers qui choisissent des œuvres, des copies d'œuvres, mais très très belles, avec de très beaux cadres, qui restent chez eux un certain temps. Alors évidemment, toutes ces expériences offrent des entrées vers l'art plus démocratique et puis renouvelé. Mais pour que cela réussisse, il ne suffit pas d'ouvrir davantage le musée, il faut aussi préparer le terrain. Et il y a une préparation, je le sais, pour le musée d'Orsay, avec des intervenants scientifiques, puisqu'Anne Lafont fait partie d'un comité scientifique, et aussi de grands moments de réflexion collective. Mmh. Comment avez-vous choisi, bien, qui intervenait, Rosa Djaoud, comment tout ça a été préparé du côté du musée pour que le résultat soit à la hauteur de vos attentes?
Alors, nous avons en effet organisé pour la première fois, très en amont, là aussi, de l'exposition, trois mois avant, un séminaire de formation pour les enseignants. C'est un séminaire que nous avons coproduit, co-construit, enfin où tout a été co-décidé avec les deux inspecteurs de l'éducation nationale, parce que ça s'adressait à des enseignants et nous avons encore une fois fait tout ce travail autour de l'exposition Modèle Noir avec eux. Et l'idée, dans les premières réunions qu'on a eues ensemble, c'était d'aider les enseignants le mieux possible, j'allais dire, à répondre à toutes les questions potentiellement sensibles, peut-être pas, mais potentiellement sensibles, que cette exposition pouvait soulever à la fois au sein des classes, lors de visites au musée, toutes les questions qui pouvaient se poser eux-mêmes. Et l'idée, voilà, était de travailler à la fois avec le commissariat de l'exposition. Et vraiment, il y a eu un engagement des commissaires, de Stéphane Guégan, je l'ai dit, d'Isole Pludermacher. Et ce séminaire a été bâti avec eux aussi. Et nous avons ensemble choisi les autres intervenants, qui étaient à la fois des intervenants comme Lilian Thuram ou comme la danseuse, pardon, Raphaël Delaunay, avec l'idée qu'ils apportaient, du fait de leur parcours personnel, un témoignage, des intervenants plus scientifiques, j'allais dire, comme Anne Lafont, Pape Ndiaye, qui est l'autre membre du conseil scientifique de l'exposition. Des références aussi pour, j'allais dire, pour le grand public, les enseignants, mais en général, je pense à Axel Kahn, qui a accepté d'intervenir, mais alors vraiment très, très spontanément, dès qu'on l'a sollicité, pour venir parler, en fait, de ces questions difficiles pour des enseignants. Comment expliquer toutes ces théories récurrentes de différences, soi-disant, génétiques entre les Noirs et les Blancs, qui reviennent régulièrement et avec lesquelles on a du mal, parfois, à s'en sortir dans une classe? Comment expliquer ça simplement? Comment expliquer cette unité que les élèves ressentent entre eux? Mais voilà, la presse, tout ce qui circule un peu partout, et qui est compliqué en fait à déminer pour des professeurs. Donc l'idée de ce séminaire, qui a duré une journée, c'était de leur permettre d'entendre en fait une pluralité de voix, une pluralité de discours, et de leur donner, alors pour reprendre l'expression de l'inspectrice de Paris, pour leur donner à ces enseignants des outils. Et en fait, c'était une journée de séminaire qui était pensée au départ pour les professeurs d'art plastique, principalement, puisque c'est un projet d'art plastique qu'on a mené. Et on a eu énormément de demandes de professeurs, évidemment, de toutes les autres disciplines, de lettres, d'histoire, de musique, de ceux qui portent ce qu'on appelle l'enseignement moral et civique et moral. Mais même, y compris de directeurs d'école, il y a beaucoup de directeurs d'école qui ont souhaité assister à ce séminaire, de directeurs d'école, de réseaux d'éducation prioritaire, mais pas seulement. Parce que voilà, au-delà de la façon dont ce sujet traverse les programmes, il y a la question du quotidien, de comment on réussit à vivre ensemble. Et j'ai bien conscience que là aussi, c'est une expression un peu galvaudée. Mais c'est cette idée-là. C'est comment on fait face au quotidien à tous ces problèmes qui existent dans la communauté éducative et auxquels les enseignants ne sont pas toujours bien préparés à répondre.
Problème ou question? Alors, un peu de matériel intellectuel, et même beaucoup, évidemment, ça peut servir. Mais toute cette préparation, finalement, pour aller voir une exposition, et je dis finalement parce que il y a aussi l'idée qui circule à l'endroit de l'art, que l'art se suffirait à lui-même. C'est ce que pense une partie du public. Et là, on voit qu'il y a une grande préparation. Alors, du côté de ces médiums, hein, que sont les enseignants qui emmènent les élèves, et puis aussi du côté des conférenciers qui accompagnent les élèves. Elle est importante, cette parole parallèle aux œuvres, Anne Lafont, et comment faire en sorte qu'elles soient entendues et plus largement?
Oui, alors, selon moi, c'est vital. Enfin, le discours qui accompagne, je dirais, l'expérience esthétique ou le goût même de l'expérience esthétique, ça n'est pas du tout quelque chose d'inné ou de naturel. Et je pense que les gens qui prétendent que ça l'est, c'est parce qu'ils ont connu ça depuis toujours et ils pensent que c'est quelque chose qui est tout à fait naturalisé ou qu'ils ont tout à fait naturalisé, alors que c'est une transmission finalement, c'est un partage, c'est quelque chose qui se travaille dans le bon sens du terme, enfin qui se s'émoustille, on peut dire. Donc moi je crois tout à fait au fait qu'il faut accompagner les œuvres d'art de discours et qu'il est nécessaire aussi, dans le cadre d'un projet, on rassemble finalement des chefs-d'œuvre dans un lieu, le musée d'Orsay, tout ça ajoute des strates de compréhension finalement d'un objet lui-même. Je pense par exemple au radeau de la Méduse, on peut dire, ou à l'Olympia de Manet. Tout ça, cette multitude de choix qui amène à exposer cette œuvre-là à ce moment précis, de l'entourer d'un ensemble d'autres tableaux, n'est pas du tout le fruit du hasard et c'est le fruit de discussions et de projets communs. Et si finalement, si on ne restitue pas l'ensemble de choix qui est fait dans le projet d'une exposition, on empêche, et on peut le faire volontairement, hein, c'est l'histoire de la distinction, hein, qui a accès finalement à tout ce qui est autour de l'œuvre d'art et qui fait qu'on va pouvoir la goûter. Hein, on peut choisir de ne pas partager ça et finalement avoir une exclusive, savoir que on est les happy few qui vont en profiter, ou bien décider qu'on met tout sur la table et qu'on peut s'en saisir. Plein de gens vont passer à côté parce que ça les intéressera pas. Grand bien leur fasse, c'est comme ça, mais je veux dire, ceux qui veulent l'auront à disposition, pourront s'en saisir et finalement entretenir, entamer aussi une relation avec l'œuvre d'art.
En pédagogie, c'est ce qu'on appelle l'enseignement explicite. Je voudrais qu'on entende encore un élève. Alors, il n'est pas noir et lui est en section art plastique. Il s'appelle Adam. Il est au lycée Condorcet. Il a fait dialoguer Basquiat et Matisse. Et puis la musique aussi.
Mon œuvre, c'est un triptyque avec des couleurs très orangées, jaunes et trois formes de trois personnages qui dansent. Qui rappelle aussi Jean-Michel Basquiat parce qu'on a un peu travaillé. On devait s'inspirer de Matisse et de Jean-Michel Basquiat. Donc, pour m'inspirer de Matisse, j'ai fait ces espèces de formes un peu découpées du fond. Et pour Jean-Michel Basquiat, ces grosses écritures qui... Jean-Michel Basquiat utilise beaucoup cette dimension comme polyphonique de l'écriture sur le tableau. C'est plus, on va dire, la musique noire qui m'a touché. En classe, justement, on a parlé de tout cet aspect de la Harlem Renaissance avec le jazz, les clubs de jazz.
T'es en quelle filière ?
L'art, voilà.
On a parlé du fait de pouvoir s'exprimer en tant qu'adolescent, enfant, en tant que personne qui s'essaye aussi à l'art. Ça peut être ça, aller voir une exposition, avoir envie, évidemment, ça peut donner envie soi-même de produire des œuvres. Mais ce qui m'a aussi intéressée dans cette intervention d'Adam, c'est l'idée que finalement la question de l'échange culturel, la question de la présence noire, y compris en France, elle est très ancienne. Et cette question, elle est toujours formulée soit comme quelque chose de tout à fait récent, soit comme quelque chose qui remonterait à l'esclavagisme et au XVIIIe siècle. Et qu'entre ce moment-là et le moment contemporain, on n'aurait pas trop d'histoire à raconter. C'est aussi ce que restitue l'exposition qui fait œuvre d'histoire, pour le coup, Anne Lafont.
Oui, tout à fait. Et je crois que là, c'est une découverte, d'ailleurs, qui est mutuelle. Même le comité, je dirais, qui a travaillé sur l'élaboration de l'exposition, a été surpris par la quantité, je dirais, des personnes. Oui, vous me regardez l'air surprise, mais un projet d'exposition, c'est plusieurs années. On commence à chercher, on a une intuition, et finalement, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et tant mieux, finalement. Donc, effectivement, je pense que la quantité a été une surprise, la qualité aussi, mais ça, on peut vous peut-être davantage s'y attendre, parce qu'il y avait déjà quelques exemples assez repérés qui étaient très beaux, mais de voir aussi tous ces modèles surgir des réserves des musées, parce que c'était pas exposé dans différents lieux en France, ça nous a beaucoup surpris. Et du coup, on a mieux travaillé la porosité, je dirais, des milieux du spectacle et ceux de l'art, où se trouvaient précisément des communautés justement noires, pour une grande partie au XIXe siècle, venant plutôt des États-Unis et des colonies françaises, faut bien le dire. Et pour le XXe siècle, avec l'arrivée des tirailleurs sénégalais, finalement une présence aussi africaine qui a eu lieu, si vous voulez, avant même la fin des colonisations, donc dans un moment plus contemporain, comme vous le disiez.
Toutes ces communautés qui vivaient en France, beaucoup à Paris, mais aussi à Marseille, dans les grandes villes, des communautés asiatiques aussi, et puis un peu partout dans le monde. Mais ces histoires, bien... Les élèves, les enfants, parfois, ils les connaissent parce que c'est leur histoire, l'histoire de leur famille. Et ça, ils vous en ont parlé aussi, Nora Philippe.
Oui, je suis toujours très prudente sur les termes chronologiques ou une histoire qui serait passée. C'est ce que, enfin, Abdelmalik écrit. On rêve de musée, mais on ne veut pas être muséifié. Et il ne s'agit pas de se mettre dans une sorte d'espace comme un ange, des anges de la post-histoire, où cette histoire-là, la question de la représentation serait terminée.
Mais l'idée que le temps remonte plus loin que un contemporain qui dirait, voilà, l'immigration. Après tout, c'est pas du tout un fait nouveau, de même que ce qu'on appelle, et on peut mettre plein de choses et détester ce terme qu'on appellerait la diversité.
Oui, oui, mais c'est là la grande qualité de l'exposition. Et puis moi, je suis un bon cobaye parce que en fait, j'ai eu une formation tout ce qu'il y a de plus classique en histoire de l'art à l'école du Louvre, 19e siècle. Et c'est ce qui est complètement fou parce que par ailleurs, enfin culturellement, humainement, politiquement, je pense que j'avais un œil aguerri à l'époque, mais je ne voyais pas en fait les figures et les modèles noirs, y compris les métissages et chez les auteurs et dans les images même. Donc je veux dire, il s'agit vraiment en fait d'opérer une conversion du regard, c'est-à-dire de changer de lunettes. Et cette exposition le fait. Voilà. Et j'espère qu'elle le fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train, les gens n'ont pas quitté l'exposition en se disant un sujet a été traité, il y a une thématique, mais bien de changer de lunettes et bien au-delà en fait des termes chronologiques ou et de territoire. C'est-à-dire de vraiment de commencer à voir ce qui n'était pas vu, relégué dans les réserves, etc., etc. Voilà. Donc j'espère que il y a un changement de, ouais, effectivement, une conversion de regard.
Changer de regard, convertir ses lunettes ou l'inverse. Merci beaucoup à toutes les trois. On mettra les références de l'exposition, celle des élèves et puis celle de Jéricho à Matisse pour le modèle noir, évidemment, au musée d'Orsay. Vos livres, Anne Lafont, Nora Philippe, ce livre que j'aime vraiment tout particulièrement avec Chloé Corman et la photographe dont vous allez me rappeler.
Géraldine Restéanu, photographe, voilà. Auteur des portraits des adolescents.
Des élèves du collège Jean-Pierre Timbaud. Magnifique travail. Je le répète. Et puis on se quitte au son de Calypso Rose, puisqu'elle passe très bientôt, cette chanteuse, au musée d'Orsay. C'est le
13 juin.
13 juin, c'est, vous avez bon. De la leçon de choses dans Être et Savoir. Alors, je vais pas vous raconter ma vie, mais un tout petit peu. En 99, je faisais mon tout premier stage, un stage d'observation d'un mois au journal Le Monde, et lors des conférences de rédaction, Josiane Savigno m'impressionnait particulièrement. Pour notre leçon de choses, la critique littéraire et ancienne directrice du Monde des Livres revient sur ses années d'apprentissage. C'est au micro de Sophie Bobert. Une enfance dans un quartier populaire.
Je le percevais pas vraiment comme ça parce que j'avais des parents qui s'occupaient de moi, mais je voyais bien que j'étais dans un quartier populaire. À l'époque, mes parents avaient une boutique d'alimentation et ma grand-mère avait un bistrot pas très loin. Et donc, je voyais bien que c'était pas un quartier de riches. Il y avait un café de mauvaise réputation où venaient les soldats américains, parce qu'il y avait des soldats américains non loin de là, un grand. Et alors, il persistait, déjà un peu éméché, à vouloir m'offrir des chewing-gums. Ma mère protestait, elle ne voulait pas que je mange du chewing-gum. Et ils allaient dans ce bar en face. C'était assez... Ça ne m'a pas déplu. Je n'ai pas eu une enfance malheureuse. Je n'ai pas senti du... Les humiliations, elles sont venues après.
Mais elle vous a pesé, cette condescendance que vous avez rencontrée à Poitiers, hein, envers vous, envers votre milieu social. Dans votre livre « Point de côté », qui est paru chez Stock en 2008, on a vraiment l'impression que ça vous a pesé, que ça vous a révolté, oui, en tout cas.
Plus révolté que pesé. Je dis pesé, je ne suis pas tellement du genre à me laisser tabasser. Mais oui, c'était un peu désagréable, mais j'ai toujours trouvé des chemins de traverse. C'est-à-dire que j'étais copine avec une fille on dirait maintenant qu'elle avait certains problèmes psychologiques, sans doute, mais donc elle avait des parents riches, mais pas des bourgeois traditionnels, et des parents qui probablement avaient changé leur nom après la guerre, et qui étaient juifs et qui avaient changé leur nom après la guerre. Et donc, je pense qu'elle portait toute une histoire que j'ai pas cherché à savoir, mais bizarre. Mais donc les parents la couvraient de choses. Elle avait des sacs Hermès, vous imaginez, en troisième ou en seconde, des sacs Hermès. Mais à l'époque, on portait des blouses, donc il y avait quand même un effacement du social par les blouses. Mais elle m'aimait beaucoup. Et alors, on était très amies. Alors, elle était le mauvais canard. Moi, j'étais le mauvais canard d'une autre manière. Et j'étais bonne, elle n'était pas bonne. Alors, elle copiait toujours sur moi. Un jour, on s'est fait prendre. Alors, ça a été un peu délicat.
Mais comment expliquer, Josiane Savigno, ce caractère d'enfant frondeuse et obstinée? Et cette phrase qui ne vous a jamais quitté, cette phrase du penseur chinois Zhuangzi, qui commence à obéir, n'en finira jamais. Pourquoi?
Écoutez, je ne sais pas trop. J'étais un peu ce qu'on appelle un garçon manqué à l'époque. Ma grand-mère qui s'occupait de moi pendant que ma mère travaillait, la pauvre, je dirais, maintenant je considère qu'elle a souffert, me voir arriver avec les genoux écorchés, des bosses, machin. Et puis, ma mère avec laquelle j'ai eu des rapports parfois un peu difficiles, mais j'ai beaucoup de respect pour elle. Parce que quand j'avais 7 ou 8 ans, donc dans ce quartier populaire, en effet, les filles, on s'en foutait. Je veux dire, on allait les marier, et punto. Hein. Et les garçons, peut-être qu'il fallait qu'ils travaillent un peu à l'école. Ma mère, un jour, m'a dit, tu sais, tu dois bien travailler à l'école parce que tu ne devras jamais demander ton argent à un homme. Je trouve ça extraordinaire. C'était vraiment une féministe sans savoir le mot. Et je lui ai obéi. Après, il y avait un pacte entre nous. C'est-à-dire, t'es emmerdante, mais tu travailles bien à l'école. Donc, on te passe un peu plus de choses que si tu travaillais mal à l'école. Mais je crois quand même que j'ai été un peu rude. Ce que je voulais pas, c'est qu'on me bouffe la laine sur le dos. Par exemple, en cinquième, après, j'ai déménagé à Poitiers. Donc, c'était ma dernière année à Châtellerault. En cinquième, j'avais la meilleure moyenne. Donc, j'avais ce qu'on appelle le prix d'excellence. Et pour insolence, on m'a dégradée. Et j'ai dit que j'irais pas le chercher. Donc, mon père a été plutôt de mon côté, parce qu'il était un peu, sans doute, hein, les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Et il a téléphoné en disant, non, elle veut pas venir, elle viendra pas.
Elle lisait quoi, la petite Josiane Savigno, à la maison?
Et bien alors, elle lisait tout ce qu'elle trouvait, parce qu'à la maison, mes parents n'étaient pas des intellectuels. J'allais dire, ils ont fini par lire beaucoup, mais c'est plutôt grâce à moi, c'est plutôt moi qui les ai entraînés vers la lecture. Donc, c'est très important quand même pour mon avenir. Mon père était un très grand lecteur de journaux, c'est très important. Les livres, donc, il n'y en avait pas beaucoup chez moi, mais mes parents, comme je vous dis, étaient vraiment prêts à tout faire pour que j'aie une vie meilleure que la leur. Et donc, si je voulais un livre, ils me l'achetaient. Mais quand j'étais vraiment petite, j'allais surtout à la bibliothèque. Puis après, j'ai fait, je ne regrette pas, hein, Club des 5, Clan des 7. Et puis alors, cette Alice détective, parce que dans la bibliothèque verte, c'était merveilleux. Elle avait 16 ans, elle n'avait pas de mère, donc le rêve. J'avais un Oedipe gros comme une maison, donc le rêve. Elle était avec son père, et son père lui avait offert une voiture, parce qu'à 16 ans, on pouvait déjà conduire. Oh, la merveille. À 13 ans, j'ai demandé à mon père de me prendre à conduire. Il l'a fait.
Il était sympa, votre père.
Très. Très. Je pense volontiers à mon père. Dès que j'ai un ennui avec ma voiture, par exemple, je me dis, ah, il ne peut pas me dire ce qu'il faut faire. Ou je pense au moment où, à 13 ans, contre la volonté de ma mère, comment on ne confie pas le volant à une fille de 13 ans? Il m'emmenait dans des terrains vagues, il mettait des bidons pour que je fasse des créneaux. Je suis un as du créneau, je peux vous dire.
Évidemment, selon la formule consacrée, n'essayez pas de faire ça chez vous. Sinon, vous pouvez lire Josiane Savigno, une conversation infinie avec Philippe Solers, publiée chez Bayard il y a quelques mois. Vous pouvez surtout retrouver nos podcasts et nos balados, comme on dit au Québec, sur le site de France Culture, ainsi que toutes les références citées dans cette émission à la page des Traits Savoir, évidemment. Dans notre prochain numéro, nous parlerons de ce que signifie avoir 13 ans aujourd'hui. Nous en parlerons avec une héroïne, Esther, enfin surtout le dessinateur et créateur d'Esther, Riad Satouf, la productrice de podcast Charlotte Pudlowski et la linguiste Aurore Vincenti. Il me reste un instant pour vous rappeler que France Culture passe toujours le bac, et oui, la semaine qui vient à partir de demain, avec plein de programmes spéciaux à l'antenne. La méthode scientifique, entendez-vous l'écho, la fabrique de l'histoire, les chemins de la philosophie, la compagnie des auteurs. Beaucoup de disciplines sont représentées pour cette préparation du bac, donc jusqu'à jeudi.